Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avait envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, et bien, chers amis, nous commençons maintenant un autre traité après avoir terminé le long traité sur les vices et les péchés. Touchons maintenant le traité sur la loi, les lois. C'est un traité qui va couvrir de la question 90 à la question 108 de la première partie, la deuxième partie, prima secundae. Cela va surtout couvrir la loi naturelle, la loi humaine et la loi divine, la loi éternelle, éternelle, naturelle, humaine. Donc, voir ça un petit peu. C'est un traité assez complexe. Je vais essayer encore une fois de vous le synthétiser dans ces cours que je vous donne une fois par semaine. Après avoir donc traité des habitudes, bonnes et mauvaises, des vertus, des vices, saint Thomas nous a fait connaître donc les principes internes des actes humains et il va maintenant traiter des principes externes de nos mêmes actes. La loi qui nous dirige et la grâce qui nous aide. Donc deux traités pour terminer la prima secundae, traité sur les lois que je commence maintenant, et ensuite le traité sur la grâce, qui sera le dernier traité de la prima secundae. Quelle est la définition traditionnelle de la loi? Il faut effectivement, et surtout aujourd'hui, avoir les idées claires là-dessus, parce que beaucoup de gens ont des idées complètement faussées par la loi, surtout lorsqu'ils voient la plupart des lois iniques qui nous régissent ici en France. La loi, pour être une vraie loi dans l'esprit de l'Église, dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, doit être une loi qui soit en quelque sorte créée à l'ombre de la loi éternelle et la loi naturelle. Saint Thomas donne cette définition très classique, une ordonnance de raison, en vue du bien commun, promulgué par celui qui a la charge de la communauté. Rationalis ordinatio ad bonum commune habeo qui curam communitatis habet promulgata. Donc nous sommes sur le polycopier à la page 65, en bas de la page. Donc trois choses donc, pour qu'il y ait une loi véritable. D'abord qu'elle soit raisonnable, ordonnance de raison. Deuxièmement, en vue du bien commun. Enfin, promulguée officiellement par celui qui est en charge de la communauté. Un homme privé, personne privée, ne peut pas donc faire une loi. Il n'y a pas autorité pour ça. Et si la loi est une loi déraisonnable, qui va contre la raison, contre la loi, la raison et contre évidemment la loi éternelle, eh bien, c'est évident que ce n'est pas une loi, c'est une loi qu'on n'a pas le droit de suivre, parce qu'elle est mauvaise. Et enfin, la loi doit être placée, écrite, établi en vue du bien commun. Pourquoi ? Parce que le principe externe qui nous fait bien agir, c'est Dieu. Et Dieu, donc, va nous instruire par sa loi et va nous soutenir de sa grâce. C'est en effet de la raison qu'il appartient d'ordonner quelque chose en vue d'une fin. C'est ce que dit ici saint Thomas, en bas de la page 65. Les créatures raisonnables, page 66 de Polycopier, les créatures raisonnables participent en quelque sorte de la loi éternelle par le fait qu'en recevant l'impression de cette loi en eux-mêmes, ils possèdent des inclinations qui les poussent aux actes et aux fins qui leur sont propres. Donc la loi naturelle qui est inscrite en notre nature humaine n'est pas indépendante de la loi éternelle. Elle est une participation de la loi éternelle inscrite dans la créature raisonnable. C'est ce que nous allons voir. Toute loi, alors reprenons un petit peu tout cela pour être sûr que les choses soient clairement établies. Donc toute loi doit émaner de la raison. Une loi qui n'est pas raisonnable ne peut pas être une loi qui oblige. C'est à la raison donc de dicter les lois. La loi, qu'est-ce autre chose qu'une règle, une mesure qui nous oblige à faire une chose ou à nous en abstenir. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot loi. Le mot loi vient du latin ligare. Ligare, c'est lié. Donc, il faut bien comprendre cela. On dit parfois que la volonté, plutôt que la raison, est le principe des lois. C'est faux. Pour que l'acte de la volonté ait la nature d'une loi, il faut qu'il soit fondé sur la raison. Autrement, il est une iniquité plutôt qu'une loi. Ce n'est pas dans un autre sens qu'il faut entendre cet axiome du droit, la volonté du prince à force de loi. La volonté du prince à force de loi, mais le prince est lieutenant du Christ. Donc le prince en tant que lieutenant du Christ n'a pas le droit de faire n'importe quoi au niveau des lois. Même si la loi vient d'un prince légitime et que la loi est déraisonnable ou s'oppose à la loi éternelle, il est évident qu'un catholique, même qui aime son prince légitime, ne peut accepter et tolérer une loi inique de ce genre. Deuxième chose, donc premier élément d'une loi, j'ai expliqué, il y a trois éléments. Premier élément, la loi doit être raisonnable. Deuxième élément, elle doit être en vue du bien commun. Troisièmement, elle doit être promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Donc, la loi a pour but, pour fin, le bien commun. Une loi est faite donc pour le bien public et pas pour l'intérêt privé d'une personne. Si donc la raison elle-même a un premier principe dans la direction de nos actes, la loi doit l'admettre et s'y rapporter avant tout. Ce principe existe, ce principe directeur existe, c'est la fin dernière. La fin dernière est première dans l'intention, dernière dans l'exécution, comme dit saint Thomas, mais cette fin dernière est ce qui va nous guider. En conséquence, la loi doit considérer principalement la béatitude qui est un bien commun pour tous les hommes. La loi, pour être licite, doit considérer la fin de notre vie, à savoir notre fin dernière, le salut de l'âme, qui est le bien commun pour tous les hommes. Évidemment, aujourd'hui, quand on explique ces choses-là, au monde moderne, il commence à pousser des cris de putois en disant qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est bien le problème. Au Moyen-Âge, ces choses-là étaient absolument évidentes, elles ne le sont plus actuellement. Donc, les préceptes particuliers ne sont des lois qu'autant qu'elles se rapportent au bien général. La loi est donc une constitution par laquelle le peuple, représenté par les anciens, par d'autres citoyens pris dans son sein, a sanctionné quelque chose. Donc le peuple ou le chef qui représente le peuple ont donc seul le droit de dicter des lois. Il faut avoir une autorité. Les lois se rapportent primordialement et principalement, n'oublions pas, au bien commun. Troisièmement, après, donc premier élément, il faut que la loi soit raisonnable. Deuxièmement, qu'elle ait en but le bien commun. Troisièmement, il faut qu'elle soit promulguée. La promulgation est de l'essence même de la loi, dit saint Thomas d'Aquin. Dans sa question donc 90, là on est à l'article 4 de la question 90 de la Prima Secundae, que je résume. Donc sans promulgation, la loi n'a pas de caractère d'obligation. N'oublions pas cela, c'est très important de comprendre les points suivants que j'ai expliqué plusieurs fois déjà, qui sont indispensables pour avoir une loi qui oblige en conscience. Donc, premièrement, qu'elle soit raisonnable, deuxièmement, qu'elle ait pour but le bien commun, troisièmement, qu'elle ait été promulguée légitimement. C'est une prescription donc raisonnable, se rapportant au bien commun, promulguée par le chef d'un État.
la promulgation de la loi naturelle, parfois c'est une objection qu'on entend, mais la loi naturelle n'a jamais été promue. Eh bien, la promulgation de la loi naturelle existe par cela même que Dieu a placé cette loi dans le cœur des hommes dont elle est naturellement connue. Une loi qui dit, par exemple, dans le cœur de l'homme, tu ne tueras pas. Une autre qui dit, tu ne mentiras pas. Une autre qui dit, tu ne voleras pas. Ces lois sont inscrites dans le cœur des hommes. Elles ont été, en quelque sorte, promulguées par Dieu, car ces lois, cette loi naturelle n'est autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Alors, on est en haut de la page 66 sur le polycopier, deuxième paragraphe. Parmi tous les êtres, la créature raisonnable est soumise à la providence divine d'une manière plus excellente par le fait qu'elle participe elle-même de cette providence en pourvoyant à soi-même et aux autres. Un père, par exemple, un père de famille, va s'occuper de ses enfants. Une telle participation à la loi éternelle est appelée loi naturelle. Donc, dans la créature raisonnable, il y a une participation à la loi éternelle. La loi éternelle, si vous voulez, est inscrite en lettres d'or dans l'âme raisonnable de tout homme. Et c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, donc, c'est page 66. La loi naturelle, donc, n'est rien d'autre qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Saint Thomas va donc expliquer cette distinction entre la loi naturelle, la loi humaine, la loi divine, dans la question 91 de la Prima Secundae. C'est évident qu'il faut distinguer les choses. Les services politiques, les officiers politiques, ceux qui ont autorité dans l'État, ont le droit de faire des lois. Par exemple, il y a des lois même dans lesquelles l'Église n'a rien à dire. Bon, par exemple, une loi qui établit en France, on va conduire à droite. Bon, le chef du pays a le droit d'établir qu'on conduira en France à droite. Bon, le chef d'un autre pays, par exemple en Australie, a le droit d'établir en Australie, on conduira à gauche. Ce sont des lois légitimes qui ne s'opposent pas au bien commun. Au contraire, elles sont pour la défense du bien commun, ne sont pas déraisonnables du tout. Et elles sont établies par le chef d'État. Donc elles sont légitimes. Imaginez un chef d'État qui soit complètement imprégné des idées modernes et qui dise, voilà, chacun a sa liberté. Et donc vous faites ce que vous voulez, vous conduisez comme vous voulez, à droite ou à gauche, ça m'est égal, on est libre, vous faites ce que vous voulez en France, vous conduirez votre voiture à droite ou à gauche de la chaussée. C'est évident qu'une telle loi est une loi qui serait une loi assassine, une loi qui n'est pas une loi raisonnable, ni en vue du bien commun, n'obligerait pas évidemment. On aurait même le devoir de ne pas obéir à cette loi. Donc, on doit appeler loi, donc on est dans la question 91 de la Prima Secundae, on doit appeler loi, dit saint Thomas d'Aquin, la raison du gouvernement divin des choses qui réside en Dieu, chef et roi de l'univers. Cette loi prend le nom de loi éternelle. Tous les régimes politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur institution, doivent tous être sous l'autorité de Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui est l'inventeur, en quelque sorte, du principe d'autorité. Donc la loi éternelle, c'est ça, c'est l'empreinte de Dieu sur toute sa création, toutes ses créatures. Il y a donc une loi éternelle qui n'est autre que le concept de la loi divine dont Dieu, de toute éternité, a fait l'application au gouvernement des êtres qu'il a connus et réglés en avance. Le bon Dieu ne s'est pas contenté de créer les âmes, les hommes, et de les abandonner dans la nature. Non, il leur a donné une loi pour que justement ils puissent atteindre la fin pour laquelle ils ont été créés. L'homme n'a pas été créé par Dieu et abandonné à son triste sort. Une fois créé, non, pas du tout, le bon Dieu va donner une loi à l'homme pour l'obliger d'atteindre la fin pour laquelle il a été créé. Il a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc Dieu est obligé de donner à la créature humaine qui vient de sortir du néant, il est obligé de lui donner les moyens pour que cette créature puisse atteindre la fin pour laquelle elle a été créée. Alors, cette loi divine, si vous voulez, va être manifestée dans notre nature, même pour des gens non catholiques. Les gentils, donc les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que la loi commande. Pourquoi ? Parce que il y a, s'ils n'ont pas une loi écrite, ils ont une loi naturelle qui leur fait comprendre à chacun d'entre eux ce qui est bien, ce qui est mal. On voit très bien même des petits détails dans l'éducation des enfants, par exemple. Même un petit païen de 6-7 ans, un petit garçon de 6-7 ans qui est un païen, qui n'a pas été baptisé, qui n'a jamais reçu la moindre éducation catholique, et qui veut prendre sans permission un bonbon dans la boîte à bonbons qui est à la cuisine, mais il attend que sa maman ne soit pas là. Il attend de ne pas être vu, et pensant ne pas être vu, il va dans la cuisine à pas feutrer, ouvre la boîte de bonbons pour se servir. Bon, c'est du vol. Mais il le fait en cachette, pourquoi ? Parce qu'il sait très bien, au fond de lui-même, même s'il n'est pas catholique, même s'il a le péché originel, même s'il n'a pas eu le baptême malheureusement, il sait très bien qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, qu'il fait quelque chose qui est mauvais. Il y a une loi naturelle qui va lui dire « tu ne voleras pas ». Ce petit païen qui n'a pas été baptisé a un ange gardien, attention. Les anges gardiens ne sont pas là simplement pour les catholiques. Le bon Dieu a donné un ange gardien à toutes les créatures raisonnables ici-bas sur la terre. Donc un petit païen a un ange gardien qui va lui indiquer « attention, tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire ». C'est pareil pour les vols, c'est pareil pour le mensonge et pour en fait tous les péchés. On sait très bien ce qu'on fait, que ce qu'on fait est mal. Donc, par cette loi naturelle qui nous fait comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, nous participons d'une certaine façon à la loi éternelle. La créature raisonnable, donc, a le pouvoir, justement parce qu'elle est raisonnable, de savoir où est le bien, où est le mal. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné une intelligence. N'oublions pas que l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Donc, la créature raisonnable participe plus parfaitement, donc explique saint Thomas, plus parfaitement que les autres, à la raison éternelle qui l'incline vers les actes et les fins convenables à sa nature. Cette participation à la loi éternelle chez la créature raisonnable, c'est justement ce qu'on appelle la loi éternelle. Tellement important que saint Thomas va répéter ces choses plusieurs fois. Donc ceci est résumé donc en page 66 sur le polycopier du site, donc en troisième paragraphe de la page 66. La loi naturelle, je mets ça en gras justement à cause de cela, n'est pas autre chose qu'une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Et saint Thomas va répéter cette définition plusieurs fois, surtout dans la question 91 qui explique les bases, si vous voulez. Donc, il explique que la loi naturelle, c'est en quelque sorte l'impression même de la lumière divine dans notre âme. Il cite David, psaume 4, qui dit, le roi David qui disait « La lumière de votre visage, Seigneur, est empreinte sur nous. » Cette lumière divine qui est empreinte sur nous, c'est la loi éternelle traduite chez nous par la loi naturelle. Et donc, il y a une loi naturelle qui est dans la créature raisonnable, une communication de la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une participation, c'est une communication de la loi éternelle. Notre raison, donc, va participer à la loi éternelle pour ce qui est de certains principes universels. C'est par la loi, donc, que l'homme est guidé pour accomplir ses actes propres en les ordonnant à la fin ultime. C'est le but d'une loi. Le but d'une loi, c'est d'aider la personne qui va être sous cette loi, à atteindre sa fin pour laquelle elle a été créée. Donc, la loi humaine a en principe pour fin le bien commun temporel. La loi divine a pour fin le bien commun surnaturel. Mais il ne faut pas séparer les deux. Pas dire que le bien commun temporel n'a rien à voir avec le bien commun surnaturel. Si le bien commun temporel, qui est l'objet de la loi humaine, s'oppose au bien commun surnaturel, Eh bien, il est évident que le bien commun temporel étant soumis au bien commun éternel, le bien commun temporel, si c'est un mauvais bien commun temporel, doit être au service du bien commun surnaturel éternel et donc suivre ce bien commun surnaturel, la loi divine. Si une loi humaine s'oppose à la loi divine, elle n'a aucune force de loi parce que justement elle est déraisonnable. La loi en France qui autorise une maman à assassiner son enfant dans son sein par l'avortement est une loi qui ne peut pas être une véritable loi parce qu'elle s'oppose non seulement au bien commun, mais elle s'oppose à la raison. La raison à la loi naturelle qui dit « tu ne tueras pas ». N'oublions pas que tous les hommes sont donc appelés à la béatitude qui surpasse les forces de leurs facultés. Donc Dieu est obligé de donner à tous les hommes qui ont été créés pour lui les moyens d'arriver à soumettre leur organisme spirituel à la volonté divine. Il a fallu donc que Dieu donna une loi qui mit les créatures raisonnables en rapport avec la béatitude surnaturelle. Donc c'est ce qu'explique saint Thomas d'Aquin donc dans la question 91, article 4. Pourquoi est-il nécessaire qu'il y eut une loi divine ? Bon, d'abord parce que les hommes sont appelés à la béatitude, qui surpasse les forces de l'homme, donc il faut que Dieu rajoute quelque chose pour aider justement à ce qui manque. Deuxièmement, parce que les hommes, dont les jugements sont pleins d'incertitudes, ont porté sur des actes humains des lois différentes, parfois et souvent contradictoires, et donc il faut bien que quelque chose dirige un peu tout ça. Troisièmement, les lois humaines ne seraient portées que sur le dehors des choses. Elles n'atteignent pas les mouvements intérieurs de l'âme. Et donc une loi divine doit suppléer à ce qui manque en comprimant et en dirigeant nos actes intérieurs vers le bon Dieu. Enfin, la loi humaine ne pourrait ni empêcher ni punir tout le mal qui se fait sans nuire au bien général. Et donc là, encore une fois, le bon Dieu doit intervenir pour combler justement ce manque. Pour résumer, on peut dire que par la loi naturelle, l'homme participe à la loi éternelle suivant les proportions de la nature humaine. Mais pour parvenir à sa fin surnaturelle, il lui faut de plus grandes lumières, une direction plus élevée. Voilà pourquoi Dieu a promulgué sa loi sainte qui nous donne une participation plus grande de la vie éternelle. Donc Dieu, évidemment, en tant que Dieu créateur du ciel et de la terre, est le suprême législateur. C'est lui qui a pouvoir suprême de législation, de légiférer, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir coercitif, qui est de façon imparfaite chez les hommes en charge d'une société, un chef d'État par exemple, mais qui est de façon totale chez Dieu. Donc un chef d'État ne peut pas, dans sa façon de légiférer, ne peut pas s'opposer à la loi divine, puisque cette loi divine est au-dessus de lui. C'est ce que enseignait le Moyen-Âge chrétien, qui expliquait bien avec raison que le chef, que le roi, le prince, et lieutenant du Christ. C'est par sa qualité de lieutenant du Christ, en quelque sorte, à cause de sa qualité de lieutenant du Christ, que le chef d'État, dans l'esprit du Moyen-Âge, a autorité sur le peuple. Donc, pour que l'homme puisse, je répète, pour que l'homme puisse connaître sans aucune hésitation ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter, il était donc nécessaire qu'il fût dirigé pour ses actes propres, par une loi donnée par Dieu, parce qu'une loi ne peut contenir aucune erreur. Donc, pour qu'il n'y ait aucun mal qui demeure impuni et non interdit, il est nécessaire qu'une loi divine soit surajoutée en vue d'interdire tous les péchés. J'ai expliqué tout ça, je répète, la répétition est la mère de l'enseignement. Sans répétition, on ne peut pas enseigner. Ça ne rentre pas dans les esprits. Même en répétant, ça ne rentre pas toujours. Il faut répéter des dizaines et des dizaines de fois pour que les choses rentrent. En matière d'éducation des enfants, on dit, c'est sans doute vrai, qu'il faut répéter 70 fois une chose pour que ça soit vraiment rentré dans le cœur d'un enfant. Et les adultes étant souvent des grands enfants, c'est à peu près la même chose pour nous. Donc, la loi naturelle, la loi éternelle, et par la loi naturelle, donc on revenait au Polycopié, page 66, au milieu de la page, par la loi naturelle, la loi éternelle est participée selon la capacité de notre nature humaine. Il faut donc que l'homme soit dirigé vers sa fin surnaturelle, soit un mode supérieur. C'est pourquoi la loi divine a été surajoutée. C'est un garde-fou supplémentaire qui est donné au garde-fou naturel. L'homme est protégé déjà par la loi naturelle, même s'il n'est pas baptisé, mais il y a une loi au-dessus qui va être matérialisée en quelque sorte par l'Église, la loi du baptême par exemple, et ça va être un garde-fou, une protection supplémentaire pour le véhicule qui est notre âme, qui roule plus ou moins K1K sur un chemin qui doit mener au ciel. Alors, nous continuons d'avancer dans les explications, les généralités sur la loi. Il est évident qu'il y a, Saint Thomas va se demander, poser la question, pardon, est-ce qu'il n'y a qu'une seule loi divine? Question 91, article 5. Bon. Oui et non, il y a une seule loi divine, mais elle est nécessaire. Si vous voulez, il n'y a qu'une seule loi divine, mais comme il y a deux sacerdoces, il va y avoir donc deux lois divines, la loi ancienne et la loi nouvelle. La loi ancienne correspondant à l'Ancien Testament, la loi nouvelle correspondant au Nouveau Testament. D'accord ? Donc la loi ancienne est une loi imparfaite, la loi nouvelle est une loi parfaite. Voilà ce que dit saint Thomas. Ces deux lois se distinguent entre elles comme le parfait et l'imparfait, comme l'enfant et l'homme mûr. La loi ancienne proposait surtout le bien terrestre. La loi nouvelle a pour objet principal le bien céleste. La loi ancienne réglait surtout les actes extérieurs. La loi nouvelle s'occupe principalement des actes intérieurs. Pour porter à la justice, la loi ancienne recourait à la crainte des châtiments. La loi nouvelle se sert de l'amour, que la grâce répand dans les cœurs. La loi ancienne était une loi de crainte. La loi nouvelle est une loi d'amour. Amour et crainte, voilà, selon saint Augustin, la différence entre l'évangile et la loi. Mais attention, comme il n'y a qu'un seul Dieu, la loi ancienne et la loi nouvelle ne forment en fait qu'une seule et même loi divine, qui sont entre elles comme l'imparfait et le parfait. C'est deux participations, si vous voulez, à la loi divine. Une participation inférieure, une participation imparfaite pour la loi ancienne, et une participation plus parfaite, la loi nouvelle. Pas oublier ça. Souvent, certaines personnes ont même la tendance à laisser croire par ce qu'ils disent qu'il y aurait presque deux dieux. Le dieu de l'Ancien Testament et le dieu du Nouveau Testament. Ben, excusez-moi, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul Dieu en trois personnes, égal et distinct, la Sainte Trinité. Et donc, il ne faut pas oublier ça, et même s'il peut y avoir des différences entre la loi ancienne de l'Ancien Testament et la loi nouvelle du Nouveau Testament, ces différences viennent tout simplement des différences qui existent entre l'imparfait et le parfait. Au début, c'est un exemple que donne saint Paul. Au début, quand on nourrit un enfant, on lui donne du lait. Parce que c'est tout ce qu'il peut avaler, c'est tout ce qu'il peut digérer. Donc, le bon Dieu a mis dans l'estomac des enfants, dans le système digestif des enfants, des bébés, un certain nombre de lactase, donc d'enzymes, qui sont capables d'assimiler le lait maternel. C'est pour cela qu'un enfant, un bébé, ne se nourrit que de lait maternel, c'est tout ce qu'il peut boire et manger. Bon, au bout d'un certain temps, son système digestif se développant normalement, eh bien, ces enzymes vont finir par disparaître pratiquement totalement, on appelle ça les lactases, et ces lactases vont disparaître, et donc, dès que l'enfant va être sevré, en quelque sorte, il ne pourra plus vivre simplement sur le lait de sa mère. Il va falloir commencer à lui donner une nourriture solide. C'est la même chose dans la loi. Donc, rappelez-vous cette phrase importante, la loi ancienne et la loi nouvelle ne forment qu'une seule et même loi divine qui sont entre elles comme l'imparfait et le parfait parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, par la loi naturelle, la loi éternelle est participée selon la capacité de notre nature humaine. Donc il faut que l'homme soit dirigé vers sa fin surnaturelle, selon un mode supérieur. C'est pour ça donc que Dieu va rajouter quelque chose. Ce rajout, c'est la loi éternelle, qui est participée, la loi éternelle est participée selon ce mode supérieur. C'est-à-dire, par la loi éternelle, Dieu va renforcer en quelque sorte la loi naturelle. Alors, saint Thomas se pose la question, enfin, de la question 91. Donc, question 91, prima secundae, question 91, article 6. Est-ce qu'il y a une loi de la concupiscence? C'est le texte de saint Paul aux Romains, chapitre 7. Saint Paul dit, je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit. Il est évident donc qu'il y a une loi de la concupiscence. Voilà ce qu'explique saint Thomas. Le législateur impose une loi à ses sujets de deux manières. Directement, lorsqu'il commande des actes divers. Ainsi par exemple que les lois militaires sont autres que les lois commerciales. Et indirectement, lorsque privant un sujet de quelque dignité, il le fait passer dans un autre ordre et sous une autre loi. Mais pour nous, nous avons la véritable loi que nous avons reçue de Dieu et qui est très conforme à notre nature, nous prescrivant d'agir selon la raison. Raison naturelle, qui est une participation à la raison divine. Donc, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il se voit immédiatement livré à une autre loi qui va contrer la loi naturelle, contrer la participation de la loi éternelle dans la nature raisonnable qu'est l'homme, qu'a l'homme, et donc cette participation va être de plus en plus faible en quelque sorte. C'est pour ça que le péché est tellement grave, parce que le péché va éloigner de Dieu, enlever les garde-fous de la loi naturelle et même enlever les garde-fous de la loi éternelle. N'oublions pas que lorsque nous avons le malheur de commettre un péché mortel, le péché mortel détruit la charité, et comme la charité nous manifeste justement cette loi éternelle, la charité n'étant plus dans une âme, les garde-fous qui sont représentés par cette charité, garde-fous très puissants, les garde-fous sautent. Là, vous vous retrouvez dans une route de montagne avec des précipices épouvantables à droite et à gauche, il n'y a plus de garde-fous. Donc, c'est ce que dit saint Thomas, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il se voit immédiatement livré aux entraînements de la sensualité. Et cela est bien expliqué, surtout dans l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, pardon, de saint Paul, préparant un sermon, donc ce sera le sermon du 14e dimanche après la Pentecôte, où saint Paul explique cela très très bien. Donc, il montre bien aux Galates, « Mes frères, dit-il, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Et alors après, il va pour bien montrer justement ce combat terrible du démon contre l'homme, contre la volonté, plus exactement la volonté de Dieu inscrite dans l'homme, le démon va s'en mêler pour empêcher l'homme d'être protégé par la loi naturelle et la loi divine. C'est pour cela que dans le monde moderne, on voit très bien comment les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, ou les gens qui nous gouvernent pratiquement en France, ont la haine de la loi naturelle. Et toutes ces lois mortifères sur l'avortement, sur l'égalité totale entre la nature physique d'un homme et d'une femme, pratiquement, la loi des genres et tous ces trucs-là, toutes ces horreurs actuelles, les droits des déviants sexuels, etc. Toutes ces lois ont pour but d'arracher au cœur, surtout des enfants, la loi naturelle, pour faire sauter, évidemment, la loi éternelle, pour que l'enfant ne sache plus qu'il a été créé pour le ciel. Et ça, c'est terrible. Il faut bien arriver à le comprendre. Alors, saint Paul, justement, montre bien cette opposition. Donc, encore une fois, saint Thomas disait, si l'homme s'éloigne de Dieu, il se voit immédiatement, aussitôt livré aux entraînements de la sensibilité. Saint Paul dit exactement la même chose. Quand on s'éloigne de Dieu, on se retrouve sous la loi de la chair. Les œuvres de la chair, il les donne, saint Paul les donne, Galates chapitre 5, fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables. Il y en a pour tous les goûts. Au sujet desquels je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair, net et précis. Ça a 2000 ans d'âge, toujours valable aujourd'hui. Au contraire, si je me soumets à la loi naturelle, en me soumettant à la loi naturelle, je me soumets à la loi éternelle, puisque la loi naturelle n'est autre chose que la participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Si je me soumets à la loi naturelle, à ce moment-là, je vais pouvoir plus facilement me soumettre à la loi éternelle. La loi éternelle va nous donner les fruits de l'esprit au lieu des fruits de la chair. La charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Donc vous avez ces textes, vous pouvez les relire, ceux qui les connaissent mal, vous pouvez les relire, ils sont les textes que, ce sont les textes que l'Église nous propose à notre méditation pour le 14e dimanche après la Pentecôte. L'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, est une magnifique partie du sermon sur la montagne de Saint Matthieu, chapitre 6. Et c'est la même idée, c'est ce que je vais expliquer dans mon sermon sur le 14e dimanche après la Pentecôte. Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et vous ne pouvez pas suivre la loi humaine qui s'oppose à Dieu et en même temps rester en état de grâce. Ce n'est pas possible. Donc, comme les autorités ne sont pas les mêmes, l'autorité du chef d'État n'est pas l'autorité de Dieu, bien sûr, l'autorité de Dieu passe au-dessus de l'autorité du chef d'État. Si un chef d'État utilise son pouvoir pour monter les gens contre Dieu par des lois iniques, il est évident que nous n'avons absolument pas le droit nous n'avons pas le droit de suivre une loi qui s'oppose à la loi humaine ou à la loi divine. D'accord ? Il y a dans le psaume de David, il y a un texte aussi qui est très beau. L'homme, dit David, le roi David, au milieu de sa grandeur, n'a pas compris sa dignité. Il s'est fait semblable aux bêtes dépourvues de raison. Lorsque je me sépare, je me coupe de la loi naturelle, je me coupe de la loi éternelle. Quand je me coupe de la loi naturelle, je me coupe de la partie raisonnable de ma nature. Donc je deviens comme un animal. Quelle est la différence entre le chien et l'homme ? Le chien n'a pas d'âme. Il a une âme végétative, une âme sensitive, mais il n'a pas d'âme intellective. Il n'y a pas d'âme raisonnable. L'homme a une âme raisonnable. Donc quand je me coupe de Dieu, je me coupe de la loi naturelle, évidemment, je vais me couper aussi de la loi éternelle et je vais tomber au niveau des animaux. Je vais devenir semblable aux bêtes dépourvues de raison. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on oublie le bon Dieu, lorsqu'on se coupe complètement du bon Dieu? Eh bien, on va se retrouver sous une autre loi, on va se retrouver d'amis de Dieu, on va se retrouver esclave des choses qu'on adore. Puisqu'on adore l'homme, eh bien, on va se retrouver esclave de l'homme. Et ça va être la loi de la concupiscence. C'est une loi quand on envisage comme une punition que la loi divine a infligée à l'homme, déchu de sa propre dignité. L'homme quitte sa dignité de fils de Dieu et devient enfant du démon par justement son attachement, son détachement de la loi éternelle et de la loi divine. Notre dignité vient du fait qu'on est enfant de Dieu. Si on se coupe de ce caractère d'enfant de Dieu, eh bien à ce moment-là, on perd sa propre dignité. Non, ce sont des choses qui sont évidentes pourtant, mais dans le monde moderne, ça passe plus du tout, quoi, parce que les gens sont tellement contaminés par les erreurs modernes qu'ils n'arrivent plus rien à comprendre de toutes ces choses-là. Alors, reprenons un petit peu les choses. Donc, en page 66 sur le polycopier. Donc, il dit la même chose est là. Le texte est également là. Le texte de Saint Thomas. Par la loi naturelle, donc la loi éternelle est participée sur la capacité de la nature humaine. Et il faut que l'homme soit dirigé vers sa fin ultime surnaturelle, soit un mode supérieur. C'est pourquoi la loi divine a été surajoutée. Et par elle, la loi éternelle est participée sur son mode supérieur. J'ai déjà expliqué cela. Donc, comme par la justice divine, au milieu de la page 66 sur le polycopier, comme par la justice divine, l'homme est destitué de la justice originelle et de la vigueur de sa raison, cette ardeur de sensualité qui le mène à raison de loi, en ce sens qu'elle est une loi pénale que la loi divine inflige alors à l'homme en le destituant de sa dignité propre, dit saint Thomas. Ça veut dire que c'est la loi de la concupiscence qui va prendre la place de la loi naturelle et de la loi divine. Alors, voyons un petit peu les effets de la loi. En suivant saint Thomas, c'est la question 92. Donc, je me rapproche du passage que je vais expliquer plus à fond. Donc, en bas de la page 66, vous voyez que encore une fois, je n'ai pas le temps de tout expliquer dans la somme, donc je prends certaines parties qui me semblent plus importantes, plus belles. Et donc, je vais commencer à expliquer à fond l'article 6 de la question 93. Mais je complète justement en expliquant les choses, en vous donnant une espèce de raccourci sur l'enseignement de saint Thomas jusqu'à la question 93, article 6. Donc saint Thomas, question 92, va nous parler des effets de la loi sur les citoyens. Les actes de la loi. Donc, la volonté du législateur, c'est Aristote qui disait ça, quatre siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté du législateur est de rendre les hommes bons. Monsieur Macron devrait se rappeler cette chose-là. La volonté du chef d'État, c'est de rendre les hommes bons. Bon. C'est évident que si un chef d'État cherche à rendre l'homme mauvais, eh bien, on a parole de suivre. D'accord ? Donc, saint Thomas va même plus loin en expliquant que le propre des lois est de donner au sujet la vertu qui leur est particulière. Donc, il va aussi loin que de dire, dans le cas où le législateur recherche son avantage, ses plaisirs, et non le bien public, il contredit la loi divine. S'il contredit la loi divine, eh bien, il va contredire aussi la loi naturelle et on n'a pas le droit de le suivre. Alors, les actes de la loi sont... Il y a quatre fonctions, si vous voulez, dans la loi. C'était la façon traditionnelle d'expliquer les conséquences de la loi, les effets de la loi chez les Romains. Commander, défendre, permettre, punir. Bon, on peut résumer cela. Trois autres mots, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir coercitif, c'est la même chose. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de juger selon les lois, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois, et le pouvoir coercitif, c'est le pouvoir d'obliger les gens qui sont soumis à la loi à lui obéir. Si on a des lois et que chacun peut en faire qu'à sa tête, bon, ben, ça ne va pas. S'il y a une loi qui dit, une loi humaine qui dit qu'il faut conduire à droite en France et que les gens peuvent tranquillement conduire à gauche, eh bien, tout va devenir catastrophique. Et donc la police est là pour nous rappeler qu'il faut conduire à droite en France et pas à gauche. Donc si quelqu'un lui prend, vient à l'idée saugrenue de conduire à gauche en France, il va vite se retrouver avec des ennuis avec la marée chaussée qui va l'arrêter pour conduite dangereuse, conduite mortifère. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Donc on est au milieu de la page 66, donc toujours sur le polycopier. Donc saint Thomas vient d'expliquer que la sensualité, quand elle est suivie, c'est-à-dire quand on refuse la protection de la loi naturelle, on va tomber dans la loi de la concupiscence, et cette loi de la sensualité, la loi de la concupiscence ou la loi de la sensualité, c'est la même chose. L'homme qui tombe dans cette, qui se fait diriger par la loi de la concupiscence ou loi de la sensualité, qui va avoir force de lui pour l'homme, va destituer l'homme de sa dignité propre. Sa dignité propre est destituée précisément par le fait qu'il ne suit plus la loi humaine, la loi, je veux dire la loi naturelle, la loi divine, mais qu'il suit la loi de la concupiscence. Donc il est impossible que le bien commun d'une cité se réalise bien si les citoyens ne sont, si les citoyens sont pas vertueux, dit saint Thomas, tout au moins à ceux qui revient, à qui revient le commandement. Donc il est très important que ceux qui ont l'autorité politique soient vertueux. Peut-être rappeler ça à tous nos politiciens actuels en France. C'est pour cela qu'on va droit dans le mur. Parce qu'il n'y a pas un seul politicien, qui se, à ma connaissance en tout cas, qui se préoccupe de l'état de son âme. Ils s'en moquent tous royalement. Et d'où les catastrophes que nous voyons devant nos yeux et qui deviennent de pire en pire. Qui viennent pire chaque jour. Justement pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié que le rôle du chef, c'était d'amener, de rendre les hommes bons. Les rendre bons surnaturellement aussi. Et donc, puisque les chefs sont complètement coupés de Dieu, ils sont incapables, dans leur loi, dans ce qu'ils font, d'amener les citoyens vers la bonté, vers le vrai, et donc ils éloignent les citoyens de Dieu. Et donc il est nécessaire que les responsables politiques soient vertueux, au moins ceux à qui revient le commandement, justement pour aider les gens, les membres de la société dont ils ont le contrôle, les aider à devenir bons. Pour cela, d'ailleurs, saint Thomas en parlera plus tard, qu'il est le régime monarchique est beaucoup plus sain, saïen, que le régime démocratique ou républicain, parce que justement, le régime monarchique ne demande qu'à une seule personne la vertu. Le régime démocratique demanderait à pratiquement tous les hommes d'être vertueux, ce qui est absolument impossible. Et on le voit très bien, lorsque nous avions de bons rois, des rois qui étaient vertueux, eh bien, tout le pays aller prendre le chemin de la vertu. On voit très bien, par exemple, dans le rôle de Saint-Louis. Saint-Louis a été Louis IX a été certainement un des rois qui a eu un des règnes les plus longs. Je crois que son règne a duré 45 ans, puisqu'il a été roi dès l'âge de 12 ans. Eh bien, Saint-Louis, justement, a aidé toute la société qui était sous son contrôle, sous ses ordres, a aidé toute la société à monter vers le ciel. Donc il était beaucoup plus facile, au temps de Saint-Louis, au XIIIe siècle, de vivre en état de grâce. Malheureusement, sous Macron, c'est pas pareil. Comme nous avons des chefs d'État qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est à enlever la loi naturelle de la nature humaine, eh bien, il est évident qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de se placer sur un chemin qui mène à l'enfer que de se placer sur un chemin qui mène au ciel. Alors, comprenons bien ces choses-là. C'est pour cela que saint Thomas va dire qu'une loi tyrannique qui n'est pas conforme à la raison n'est pas une loi à proprement parler. Elle est plutôt une perversion de la loi. Perversion de la loi, tout simplement, parce qu'une loi de ce genre est une loi qui va nous éloigner de Dieu. Toute créature raisonnable connaît donc cette loi éternelle selon le rayonnement plus ou moins grand de cette loi. Toute connaissance de la vérité est un rayonnement, une participation de la loi éternelle qui est elle-même vérité immuable. C'est une citation de saint Augustin qu'on retrouve chez saint Thomas d'Aquin. Alors, il faut bien comprendre cela, c'est que Dieu n'a pas donné l'autorité aux princes pour en faire ce qu'ils veulent. Dieu a donné l'autorité aux princes pour que ces princes, justement, puissent amener les citoyens vers le beau, le vrai, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous la phrase d'Aristote, la volonté de tout législateur est de rendre les hommes bons. On pourrait dire, la volonté de tout véritable législateur est de rendre les hommes bons. Et la volonté de tous les bandits, si vous voulez, est de rendre les hommes mauvais. Un bandit qui dirige un pays n'a qu'une seule idée, c'est que tous les hommes dans le pays deviennent des bandits. Quand au contraire on a un saint qui dirige un pays, eh bien le saint n'a qu'une idée dans son esprit de rendre tous les hommes saints dans le pays, les rapprocher du bon Dieu. Un bandit qui dirige un pays veut mettre tous les hommes sur le chemin de l'enfer, un saint qui dirige un pays veut mettre tous les hommes sur les chemins qui mènent au paradis. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, passons maintenant au début de la question 93, prima seconde, question 93. Donc on est en bas de la page 66 maintenant sur le polycopier. Donc, saint Thomas va nous parler, commencer à nous parler de la loi éternelle. Il se demande si la loi éternelle est la souveraine raison de Dieu. Donc, il va citer saint Augustin, la loi éternelle est la souveraine raison de Dieu à laquelle est due l'obéissance partout et toujours. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut jamais se tromper, donc on lui doit obéissance. C'est la vertu de charité. La vertu de charité, c'est la vertu d'obéissance à la loi divine. Quand quelqu'un refuse d'obéir à la loi divine, il se coupe de la charité. Quand on va en péché mortel, n'oublions pas que la première conséquence du péché mortel, c'est la destruction de la charité dans une âme. L'état de grâce qui saute, c'est la charité qui saute. Donc, de cette sorte, la loi éternelle est la souveraine raison de Dieu, ou la sagesse divine dirigeant tous les actes et tous les mouvements. Alors, deuxième article, l'article 2 de la question 93, la loi éternelle est-elle connue de tous les hommes? Saint Thomas va répondre avec saint Augustin, la notion de cette loi est imprimée en nous. Comment est-elle imprimée en nous? Elle est imprimée en nous, justement, par la loi naturelle. Connaître la loi éternelle en elle-même, c'est le partage de Dieu et des bienheureux. Mais la connaître dans ses effets, dans son irradiation, c'est celui de toutes les créatures raisonnables qui participent à la connaissance de la vérité. Donc, le bon Dieu nous a donné une âme pour que nous puissions participer à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que la vertu de charité, l'état de grâce, nous donne, si vous voulez, nous divinise d'une certaine façon. Un homme qui est en état de grâce est un homme, si vous voulez, qui a mis un bout de paradis dans son cœur. Son cœur devient un bout de paradis parce que, justement, il a la vertu de charité. Donc, notre but sur la terre, c'est de participer de façon imparfaite à la connaissance de la vérité pour pouvoir un jour au ciel participer de façon plus totale, plus parfaite à la même connaissance de la vérité. Donc ici-bas, même pour les païens, bien que nous ne voyons pas Dieu, Dieu est invisible, nous pouvons voir Dieu au moins par le moyen des choses qu'il a faites. C'est l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 1. Alors, saint Thomas va se poser la question, question 93, article 3, toute loi dérive-t-elle de la loi éternelle? Donc, toutes les lois, dit-il, toutes les lois véritables émanent de la divine sagesse. De même aussi, la loi éternelle, qui est la raison du gouvernement dans le chef suprême, découle toutes les raisons du gouvernement dans les chefs subordonnés, si vous voulez. De même que, comme il y a plusieurs moteurs, si vous voulez, travaillent ensemble, donc il y en a un qui dirige. Dans une suite de moteurs bien ordonnée, la force du second dérive du premier. Dans un état, la raison du gouvernement descend du premier chef au second pour parvenir ainsi du souverain aux officiers subalternes par le système des corps intermédiaires. Dans les œuvres d'art, les plans arrivent de l'architecte aux ouvriers qui exécutent des travaux manuels. D'accord ? De la même façon, dans la loi éternelle, découle la loi éternelle qui est la raison du gouvernement dans le chef suprême, qui est Dieu, découle toutes les raisons du gouvernement dans les chefs subordonnés. Donc, dit saint Augustin, il n'y a rien de juste et de légitime dans la loi temporelle qui n'ait été emprunté d'abord à la loi éternelle. La loi humaine, donc, est une loi par sa conformité à la droite raison. Et ce rapport, elle dérive de la loi éternelle, autant elle s'écarte de la droite raison, autant elle est inique, parce que s'écartant de la droite raison, devenant déraisonnable, une loi va s'écarter aussi de la loi éternelle. On peut dire qu'une loi, une loi humaine déraisonnable s'écarte toujours de la loi éternelle, parce que justement elle se coupe de l'influence divine. La loi éternelle est la raison même du gouvernement divin, dit saint Thomas. Et toutes les choses accidentelles ou nécessaires qui existent dans le sein de la création, dont elles font partie, sont régies par elle. Dieu dirige tout, parce qu'il est justement, il est celui qui va tout diriger par sa présence, par sa puissance, par son essence, dit saint Thomas. On a déjà expliqué ça au début de la prima parte. Dieu dirige tout par sa puissance, parce qu'il peut tout, il dirige tout par son essence, parce qu'il est cause de tout. Et il les dirige tout par sa présence, parce qu'il est partout. Les choses de la nature sont-elles soumises à la loi éternelle, demande saint Thomas à l'article 5 de la question 93, prima secundae. Eh bien, il va citer un texte du livre des Proverbes. J'ai existé, dit la sagesse, quand Dieu renfermait la mer dans ses limites et qu'il imposait aux eaux des bornes infranchissables. Il faut donc conclure de là, dit saint Thomas, que les mouvements et les actes de la nature entière sont sous l'empire de la loi éternelle. Donc, même si les désordres qu'on signale dans le monde physique échappent à l'ordre des causes particulières, ils ne sont pas pour cela en dehors des causes universelles et surtout de la cause première qui est Dieu. J'ai vu tout ça dans la prima pars, la première partie de la somme. Donc, Dieu peut laisser parfois certaines causes particulières agir indépendamment de lui, mais comme il a cause première, il commande toujours tout. Il peut laisser un chef d'État agir malheureusement contre la loi naturelle, c'est le cas en France. Mais il ne faut pas que ce chef d'État oublie que lui, comme tout le monde, un jour mourra, et le jour de sa mort, il faudra bien qu'il passe devant le bon Dieu. Et le bon Dieu va le juger d'après sa loi éternelle. Le bon Dieu ne va pas juger un chef d'État actuel selon la loi de la République française, mais va juger le chef d'État selon la loi divine. La loi divine, c'est la loi des commandements du bon Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, saint Thomas explique tout ça. Je reviens un petit peu sur tout cela. C'est en bas de la page 66, encore une fois, sur le polycopier. Voilà ce que dit saint Thomas. La vérité, tous les hommes la connaissent quelque peu, tout au moins quant au principe premier, la loi naturelle. Quand la loi naturelle imprime en nous la volonté divine. Pour le reste, les uns participent davantage, d'autres moins à la connaissance de la vérité. Et par suite, connaissent plus ou moins la loi éternelle. C'est évident qu'un enfant qui a reçu un bon catéchisme de ses parents connaît plus les exigences de la loi éternelle qu'un païen qui n'a jamais rien reçu. Il y a l'obligation, si vous voulez, pour des parents, d'enseigner, les parents catholiques, d'enseigner, de transmettre à leurs enfants la foi pour que justement ils soient capables, par la connaissance de la loi naturelle, d'atteindre la loi éternelle et par la loi éternelle de monter vers le bon Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Hein. Une loi naturelle qui nous amène à la loi éternelle. La loi éternelle nous amène vers Dieu. Hein. La loi humaine, donc à raison de loi, en tant qu'elle est conforme à la raison droite. À ce titre, il est manifeste qu'elle découle de la loi éternelle. Mais dans la mesure où elle s'écarte de la raison, elle est déclarée une loi inique et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. Donc, dès qu'une loi politique, une loi humaine s'écarte de la loi éternelle, elle s'écarte de la raison, s'écartant de la raison, elle est ipso facto une fausse loi, une loi qui n'a plus d'autorité. Elle est une violence faite à la raison humaine et pas quelque chose qui aide la raison humaine pour que les hommes deviennent bons. Toutefois, dit saint Thomas, il fait une petite remarque importante, dans une loi inique, en tant qu'elle garde une apparence de loi, raison de l'ordre émanant de l'autorité qu'il apporte, il y a encore une dérivation de la loi éternelle. L'autorité vient de Dieu. L'autorité, le principe d'autorité vient de Dieu, même si dans certains cas particuliers, qui sont de plus en plus généraux aujourd'hui malheureusement, même si dans certains cas particuliers, la personne qui a l'autorité l'exerce mal, le principe d'autorité, lui, vient toujours de Dieu. Dieu, ainsi, imprime à toute la nature les principes de ses actes propres. Les déficiences qui se produisent dans les êtres de nature sont certes étrangères à l'ordre des causes particulières, j'ai expliqué, mais non des causes universelles, et de la cause première qui est Dieu, à la providence de qui rien ne peut échapper. Donc, jamais oublier ça, surtout aujourd'hui, que même si on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, en fait, il ne nous a pas abandonnés parce qu'il est toujours le grand patron. Il est toujours le grand patron qui laisse malheureusement, par un faux usage de notre liberté, il laisse la nature humaine s'éloigner de lui, s'éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu permet malheureusement à certains chefs d'État, à certains pays de tomber dans une jungle totale, dans une pagaille totale, que ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Il laisse les hommes libres. En quelque sorte, il dit aux hommes, vous voulez en faire qu'à votre tête? Faites-en qu'à votre tête. Faites-en qu'à votre tête. Mais n'oubliez pas une chose, mon petit ami, c'est que comme tout le monde, un jour, vous allez mourir, et que le jour où vous allez mourir, vous aurez à ce moment-là à rendre compte de votre gestion. Rends compte de ta gestion. a dit le roi dans le texte de l'évangile, rends compte de sa gestion parce que tu n'es plus digne de gérer mes biens. Il ne faut jamais oublier ça. Tous ces gens qui utilisent leur force politique pour détruire la foi catholique en France, un jour auront à rendre compte de leurs agissements à Dieu. Et comme ils ont une grosse autorité politique, ils auront un jugement d'autant plus sévère qu'ils ont beaucoup plus reçu que les autres sur le plan humain. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut comprendre. Donc, le cours est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais vous êtes devenus des grands théologiens, alors vous êtes capables de comprendre tout cela. Donc, la prochaine fois, Dieu aidant, donc, nous commencerons donc en bas de la page 66 sur le polycopier, l'article 6, « Toutes les choses humaines sont-elles soumises à la loi éternelle ?» Encore une fois, je me permets de vous rappeler l'importance pour ceux qui veulent vraiment travailler ce cours. Je vous conseille de l'écouter une première fois avec l'aide du polycopier, la page correspondante du polycopier, mais après de revenir sur ce cours, au moins en revenant sur le polycopier, et même si vous pouvez, d'écouter deux fois le cours. Première fois pour avoir une idée générale de ce qu'il faut comprendre, et en fait, deuxième fois pour aller plus profondément dans la compréhension. Nous allons terminer par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.